plus que quelques jours, quelques heures avant le bac. Nous allons largement en parler dans cette émission et du bac pro surtout. Dans son dernier rapport, le Conseil national d'évaluation du système scolaire n'y va pas de main morte sur l'enseignement professionnel, inégalitaire, donnant beaucoup trop peu accès à l'emploi, bref, largement perfectible. Les filières professionnelles, je le rappelle, regroupent un tiers de nos lycéens et donc des bacheliers. Mais la France a décidément du mal à améliorer la partie du système éducatif qui scolarise le plus les classes populaires. Le rapport propose donc des idées et des solutions inspirées des pays étrangers, mais aussi de ce qui fonctionne dans notre pays. Nous avons invité deux des auteurs de ce rapport, Nathalie Mons, présidente du CNESCO, ainsi qu'Éric Verdier du CNRS, viendront partager les bonnes pratiques de l'enseignement professionnel avec nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Au programme de cette émission, une longue chronique d'actualité avec Baptiste Legout de l'étudiant. Bonjour Baptiste.
Bonjour Louise. Cette semaine, il sera question du bac qui commence mercredi et des statistiques surprenantes des mentions, ainsi que du contrôle de l'enseignement hors contrat.
Et puis en fin d'émission, un focus sur le Front National. Oui, peut-il conquérir le cœur des enseignants? En tout cas, il tente de les séduire avec un collectif, le collectif Racine, dont nous avons invité le président Alain Avello, qui prépare le programme de Marine Le Pen pour 2017. De quelle école rêve-t-on au Front National? Nous allons tenter de le comprendre en fin d'émission. Rue des Écoles, attachée de production Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation, à la technique à Paris Anthony Thomasson et à Aix Pascal Morel. N'oubliez pas que Rue des Écoles, ce podcast, et oui, vous retrouvez la liste de toutes nos émissions avec tous les thèmes traités, les problématiques et le nom des invités sur le site de France Culture.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Fourré.
Allez, je salue les invités du dossier de Rue des Écoles aujourd'hui. L'enseignement professionnel, alors on s'appuie sur le bac, mais il n'est pas question que du bac pro dans cet intéressant rapport. Nathalie Mons, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes au départ professeure de sociologie et puis surtout présidente du CNESCO. Le CNESCO, c'est le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, Rue des Écoles et le CNESCO, ainsi que la Ligue de l'Enseignement et Canopée, puisque nous avions monter des forums qui continuent l'année prochaine. Donc là, un rapport, vous axez le travail sur une comparaison internationale. Pourquoi faire de la comparaison internationale quand on parle d'enseignement professionnel?
Parce qu'en fait, on se rend compte que l'enseignement professionnel est organisé de façon tout à fait différente selon les pays. Autant l'enseignement supérieur, par exemple, est finalement maintenant extrêmement standardisé. Mais lorsqu'on regarde l'enseignement professionnel, il est tout à fait disparate. Il offre des visages tout à fait différents. Et on s'est dit que face aux problèmes aujourd'hui de l'enseignement professionnel, il pouvait être bien d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Alors, ça ne veut pas dire d'intégrer ce qui se passe à l'étranger, mais en tout cas de se donner des idées, parce que une des caractéristiques tout de même de ces filières professionnelles qu'on retrouve dans nombre de pays de l'OCDE, c'est que au niveau du bac, elles intègrent mieux les jeunes que les filières générales. Or la France est dans un cas singulier, puisque c'est le seul pays de l'OCDE où lorsqu'on sort bachelier d'une filière professionnelle, on est moins bien intégré sur le marché de l'emploi que lorsqu'on sort d'une filière générale. Donc c'est quand même tout à fait problématique comme résultat.
Oui, et on entendra tout à l'heure avec vous qu'il n'y a pas que l'Allemagne pour se comparer en termes d'enseignement professionnel. Alors, vous parliez d'adéquation études-emploi. C'est vrai que l'enseignement professionnel est un mauvais élève, finalement, du système éducatif français en la matière. C'est presque celui qui fabrique le plus de chômeurs, si on regarde les statistiques. Éric Verdier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé le comité scientifique de cette comparaison internationale, de cette conférence du CNESCO. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail à l'université Aix-Marseille. L'adéquation au monde du travail, ça reste le problème numéro un de l'enseignement professionnel aujourd'hui ?
Il est difficile de parler de l'enseignement professionnel comme d'un tout homogène. Il y a en fait des composantes qui marchent bien, dans lesquelles les jeunes s'épanouissent et à l'issue desquelles aussi les entreprises trouvent la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Et il est vrai qu'il y a d'autres filières qui posent beaucoup plus de problèmes. Donc je crois que c'est quand même toujours délicat de globaliser d'emblée les jugements que l'on peut porter sur cet enseignement professionnel, qui en outre, je dirais, intègre dans son fonctionnement tous les problèmes qui se posent en amont, c'est-à-dire au niveau du collège et de l'enseignement primaire.
On va y revenir et bien juste après la page d'actualité. Et nous commençons avec le bac marronnier oblige. Cela dit, c'est très important pour les 695 000 lycéens qui le passent cette année. Beaucoup espèrent une mention, Baptiste Legout, et je découvre avec vous qu'il existe une véritable géographie des mentions.
Examen national, mais chances de réussite bien locales. Saviez-vous, Louise, que le taux de mention très bien au bac 2015 dans l'agglomération strasbourgeoise avait été de 14% contre seulement 7% à Saint-Étienne, Lorient ou Avignon? De grosses disparités qui sont encore plus marquées quand on regarde lycée par lycée.
C'est-à-dire ?
Juste avant le début des épreuves, à l'étudiant, nous avons décidé de publier en exclusivité tous les taux de réussite et de mention par filière et par établissement au bac 2015. Alors non, n'allez surtout pas croire que nous pensons qu'un établissement est meilleur qu'un autre uniquement parce que ses élèves réussissent mieux au bac. Des lycées parisiens comme Stanislas, Henri IV ou Saint-Jean-de-Passy, tous les trois dans notre top 10 des lycées généraux, ont la possibilité de sélectionner leurs élèves. On retrouve d'ailleurs, dans les 56 premiers établissements, 46 lycées privés sous contrat qui ont eux aussi la possibilité de sélectionner leurs étudiants.
Nathalie Mons, elle est intéressante, cette géographie scolaire qui dit des choses auxquelles on ne s'attend pas, par exemple que les mentions sont très inégalement réparties sur le territoire. Est-ce que ça pourrait être un champ d'étude pour le CNESCO ?
On voit depuis assez longtemps des inégalités territoriales dans les examens. Et on sait aussi que ces inégalités territoriales, elles se construisent dans le temps, puisque par exemple, il y a une très forte association statistique entre les résultats des académies et les résultats des académies donc au bac et les résultats des académies au brevet. Donc finalement, il y a une continuité dans la capacité des académies et des régions de bien suivre ou de moins bien suivre les élèves, sachant qu'évidemment, il y a tout aussi le contexte social, économique, local, qui influe énormément.
Moi, je vous propose de sortir un petit peu de l'éducation nationale, mais tout en continuant à parler du baccalauréat, puisqu'il y a une nouveauté cette année pour les lycées français à l'étranger. Tout le bac a été tout simplement numérisé.
Et je démarre le traitement.
J'étais en visite au lycée français de Rome qui appartient au réseau AEFE. Une démonstration donc de numérisation des copies du bac qui passe dans une machine, un scanner, qui réalise toutes les opérations avec une plateforme numérique, c'est-à-dire anonymisation, découpage, donc on faisait avant avec un massicot du nom des candidats, étiquetage des copies. Tout ça se fait numériquement via le logiciel Viatic et les correcteurs corrigent en ligne les copies. J'ai tourné une petite vidéo, je la mettrai sur le site de Rue des Écoles, des copies qui ne peuvent pas imprimer, mais dont ils peuvent souligner certaines phrases, annoter, afin que le candidat puisse évidemment consulter sa copie en cas de contestation. Elles sont gardées dans des coffres-forts numériques, ces copies. Bilan de l'opération pour l'AEFE, de 20% à 80% d'économie. Il faut dire qu'avant, les correcteurs prenaient l'avion pour se rendre dans des villes de la zone afin de corriger les paquets de copies de leur discipline. Alors, l'idée semble plutôt bonne. A priori, les enseignants sont contents. Pour les élèves, ça ne change rien. Mais elle n'est pas encore à l'étude, cette idée à l'éducation nationale, nous confie un collaborateur de Najat Vallaud-Belkacem. En tout cas, le bac du futur existe peut-être. Je l'ai rencontré. Qui dit bac dit post-bac, Baptiste.
C'est la fin de la procédure admission post-bac et les 760 000 candidats inscrits sur la plateforme entre janvier et mars viennent de recevoir leurs résultats. 80,6% des candidats ont eu au moins une proposition et 48,1% ont même obtenu leur premier choix. C'est-à-dire un très léger mieux que l'année précédente. Et c'est dû en grande partie à des ajustements de la procédure. STAPS, droit et psychologie. Certains candidats se retrouvent malheureusement sans rien ou avec des propositions qui ne leur conviennent pas.
Et un candidat mécontent, eh bien, on en a rencontré un à Radio France. Je vous propose d'écouter le témoignage de Branwen. Il a été diffusé, ce témoignage, jeudi matin sur France Inter. Branwen au micro de William Moreau.
Il y a de la déception quand même. Mais après, enfin, c'est le jeu, hein, mais bon, enfin, ça fait quand même bizarre de donner son avenir et ses choix professionnels à un algorithme. On ne sait pas correctement comment il fonctionne.
J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que les candidats ont jusqu'à demain, lundi 14h, pour répondre aux propositions d'APB et qu'il est impératif de le faire, sans quoi les retardataires seront considérés comme démissionnaires.
Rapidement, à lire dans Vice, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs de France Culture qui lisent Vice, un édifiant témoignage d'une enseignante passée par les ESP qui a effectué son année de stage, une année très compliqué. Et puis à propos de l'euro, un mot sur le foot. On sait qu'en ce moment, les images Panini circulent beaucoup dans les cours d'école. C'est souvent par là qu'on rentre par le foot. J'ai des témoignages personnels à disposition. Et surtout sur le football, sachez qu'il y a eu eh bien, des enquêtes de sociologues sur l'usage que faisaient les enfants de la cour de récréation. Eh bien, le foot, ça reste tout de même très genré. Et c'est par le foot que les garçons occupent une large place de ces cours de récréation. Des garçons dominés scolairement, mais dominants dans la cour. Je vous renvoie aux ouvrages de Yves Rébaud et Catherine Monod. Le privé hors contrat est au centre de l'actualité cette semaine et c'est ce qu'on appelle la liberté scolaire qui serait davantage contrôlée ou peut-être mise en cause. On a beaucoup parlé de la nouvelle réglementation de l'enseignement hors contrat et une nouvelle association de parents d'élèves vient de se créer, Baptiste.
Oui, la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes vient de voir le jour. Jusqu'à présent, il n'existait pas d'association réunissant les parents de ces élèves scolarisés en dehors du système. Rappelons-le, le hors contrat est une appellation qui regroupe de nombreuses réalités différentes. On y retrouve environ 300 établissements religieux de toutes confessions, principalement catholiques et musulmans, les écoles Montessori, des établissements pour élèves victimes de troubles de l'apprentissage et des établissements internationaux. C'est large, mais mis bout à bout, cela représente un millier de formations et près de 60 000 élèves. Une goutte d'eau qui ne représente que 0,5% des enfants soumis à l'obligation scolaire, mais qui compte bien peser à l'avenir. L'objectif de cette association est d'obtenir pour les enfants du privé hors contrat les mêmes droits que les autres en matière d'accès au transport scolaire, aux assistantes de vie scolaire et aux bourses, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ils demandent aussi des financements publics pour permettre à toutes les familles de choisir l'école de leur choix.
Système privé, argent public, évidemment, ce n'est pas sans poser problème. Alors, vous parliez de mélange, ça va des libertaires aux libéraux, en passant par les religieux. Et jeudi matin, Alain Madelin, rappelait l'attachement de son courant politique, la droite libérale aux écoles hors contrat.
Moi, je connais des tas d'enseignants et des enseignants de gauche qui viennent de l'extrême gauche, à commencer par Gabi Cohn-Bendit, d'ailleurs, avec lequel j'ai travaillé en Afrique et ailleurs, qui disent, mais laissez-nous faire des écoles, justement, pour ces gamins défavorisés dans les banlieues. On commence à le faire. Mais laissez-nous les sauver, laissez-nous nous grouper, laissez...
C'est pas forcément la fin
de l'expérimentation. On a besoin de libérer
hein.
L'école. Elle a besoin d'être libérée. Les enseignants ont besoin d'autonomie. Les établissements ont besoin d'autonomie et on a besoin d'innovation. C'est pour cette raison-là que j'ai plutôt soutenu Najat Vallaud-Belkacem pour la toute petite dose d'autonomie qu'elle mettait à l'intérieur des établissements scolaires en disant, c'est un petit pas, tout petit pas, mais saluons le petit pas.
C'était au micro d'Hélène Jouan sur France Inter. Najat Vallaud-Belkacem, elle donnait une conférence de presse jeudi matin. Nous avons pu y croiser des partisans de l'éducation à la maison. Ils contestent la mise en place de cette nouvelle réglementation, en particulier sur un point, l'évaluation de leurs enfants.
À partir du moment où on fait des choix pédagogiques, on peut être contre le principe de l'évaluation. On sait que l'évaluation, ça peut... Il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça joue sur l'estime de soi. Donc si effectivement on est contre ce principe d'évaluation, si les inspecteurs viennent et font des tests à nos enfants, il peut y avoir justement un non-respect de la liberté pédagogique. Donc oui, moi je suis contre ça, contre ces exercices oraux ou écrits qu'on veut nous imposer, alors que jusqu'à présent, on n'était pas du tout imposé à ça. La loi dit qu'il y a une vérification de l'enseignement. Donc là, et le responsable de l'enseignement, c'est moi le responsable de l'enseignement. Donc on peut très bien voir, si on veut savoir si un enfant reçoit bien une instruction, il suffit de s'adresser au responsable légal. On montre ce qu'on fait, on montre le matériel, on montre notre progrès. Et ça suffit très largement pour savoir qu'un enfant est instruit ou pas. Là, ils vont faire en fait des contrôles comme les enfants qui vont à l'école. Et nous, si on ne va pas à l'école, ce n'est pas pour que nos enfants soient évalués comme à l'école.
Merci à Célia Quiré pour la prise de son. J'ajoute que du côté des directions d'écoles type Montessori ou nouvelles écoles, alors il y a une école qui s'appelle l'école dynamique à Paris. Son directeur Ramin Farangui me confiait que nous avions besoin d'un système agile, un système d'école plus libre. Ça reste une question en débat, alors que même si elle scolarise peu d'enfants, ces écoles se multiplient. Mais Baptiste, je voulais revenir avec vous sur les fondements historiques de cette idée de liberté scolaire.
Oui, donc en France, la liberté de l'enseignement, qui compte de nombreux défenseurs, on vient de l'entendre, fait partie des principes fondamentaux. Les textes sont anciens. Certains établissements sont encore aujourd'hui régis par la loi Fallou du 15 mars 1850. Dans les faits, les changements proposés par le ministre sont assez mineurs. L'administration pourra simplement refuser en amont l'ouverture d'établissements qui ne respecteraient pas certaines règles en vigueur. Au niveau symbolique, par contre, cette réforme est loin d'être vide de sens.
Non vide de sens, est-ce que vous voulez réagir, Alain Avello du collectif Racine, la liberté scolaire, est-ce que le Front National, c'est quelque chose que vous défendez ?
Ah bah écoutez, nous y sommes effectivement attachés. Dès notre texte fondateur, je parle du collectif que je préside, hein, qui date de mai 2013, nous avions dit que nous restions effectivement profondément attachés aux spécificités qui sont, comme cela vient d'être rappelé, inscrites dans l'histoire de France, simplement de l'enseignement privé, qu'il soit hors contrat ou sous contrat.
Nathalie Mons, sur ces écoles aujourd'hui qui plaident pour la liberté, n'y a-t-il pas aussi un risque de division d'une école de classe, peut-être, alors qu'on sait que le hors-contrat coûte très cher ?
Le hors-contrat, de toute façon, c'est vraiment epsilonesque en France. Hein. Vous avez cité les chiffres, et c'est vrai que c'est la particularité en fait du système éducatif français, c'est que lorsqu'on ne donne pas d'argent, les parents n'envoient pas leurs enfants dans le privé. Si on compare, par exemple, avec l'Angleterre, avec même la situation aux États-Unis ou certaines écoles au Japon, on a du privé non subventionné beaucoup plus important. Donc c'est finalement, le privé est très encadré de fait en France.
Nathalie Mons, vous restez avec nous pour le dossier de cette semaine.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Touré.
Moteurs et mécaniques automobiles, énergie, génie climatique, agriculture, élevage, paysage, forêt, agroalimentaire, alimentation, cuisine, ce sont là les séries d'excellence de la filière professionnel. Voilà, je l'ai appris en lisant le rapport du CNESCO. Mais plus globalement, on a commencé à le dire tout à l'heure, l'insertion des jeunes issus de l'enseignement professionnel n'est pas assurée dans tous les secteurs, loin de là. Je vais citer des chiffres. Encore 7 mois après l'obtention de leur diplôme, 57% des titulaires d'un CAP et 46% des bacheliers sont au chômage. Bachelier professionnel, là, ce sont des chiffres de la DEP. Alors, quel est l'objectif de ce rapport de comparaison, Nathalie Mons? On en parle souvent de l'enseignement professionnel comme d'un enseignement sur lequel il faudrait changer les représentations, les mentalités, qui est peu efficace en termes de réussite scolaire. Pourquoi le redire?
C'est-à-dire qu'on entend finalement depuis 15 ans tous les politiques nous dire qu'il faut revaloriser l'enseignement professionnel. Donc au Conseil national d'évaluation du système scolaire, on s'est dit tout ça est bien étrange. Pourquoi on est toujours sur cette petite litanie? Et on a essayé d'y voir plus clair et de dresser, grâce à l'équipe que dirige Éric Verdier, un diagnostic assez clair. Et c'est vrai que, Éric Verdier le disait en introduction de cette émission, c'est un monde très hétérogène, avec des réussites. Alors, les filières que vous avez citées sont des réussites en termes d'insertion, mais les réussites, elles sont aussi d'autres natures. Hein. C'est-à-dire que dans l'enseignement professionnel, on trouve aussi, par exemple, beaucoup d'innovations pédagogiques. Il y a certains enseignants, par exemple, qui, pour dépasser les difficultés scolaires de leurs élèves dans les secteurs comme la comptabilité et l'administration, vont développer des entreprises virtuelles pour les faire rentrer vraiment dans cette expérience et dans les connaissances et les concepts un peu abstraits qu'il peut y avoir. On trouve aussi des expériences tout à fait intéressantes d'internationalisation. On imagine peu que ces jeunes, en fait, même s'ils occuperont demain des positions dans les filières industrielles, qui ne sont pas des positions de hiérarchie, ils peuvent et ils doivent voyager. Et certains établissements ont vraiment pris à cœur de développer des échanges internationaux, notamment tout ce qui est frontalier, France, France-Allemagne avec des stages, des immersions dans des entreprises, dans des établissements allemands. Et du coup, après, les jeunes voyagent. Hein, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas, eux aussi, comme l'élite, voyager à l'étranger. On trouve aussi des BTS qui ont vraiment à cœur de faire réussir leur bachelier. Et du coup, bon, ils diagnostiquent 2 ans avant l'arrivée de ces bacheliers. Hein, et ils les aident en amont avec donc des cours supplémentaires. Ils les aident aussi quand les bacheliers sont dans les BTS avec du tutorat entre pairs. Hein, c'est les aînés qui vont aider les plus fragiles. Et là, on voit que ces expériences, par exemple, réussissent, alors que dans l'ensemble des autres BTS, on a un échec très important de ces bacs pro. Donc, il y a des réussites, mais à côté, c'est vrai que voilà, il y a des points noirs très importants, notamment dans les filières de services.
On va revenir dans un très court instant à ces points noirs. Éric Verdier, vous êtes chercheur. Je voulais rebondir sur une idée esquissée par Nathalie Mons, celle que finalement, on en appelle toujours à une rénovation, une refondation de l'enseignement professionnel, une revalorisation aussi. On parle de filière à égale dignité. Mais en même temps, les travaux de la recherche sur cette question étaient peut-être peu repris. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est indéniable pour ce qui est en tout cas des résultats en matière d'insertion, puisque certaines filières, depuis maintenant une vingtaine d'années, donnent de très mauvais résultats. C'est le cas de ce qui était autrefois le bac bureautique, qui maintenant s'appelle le bac gestion des entreprises et des administrations, je crois, qui débouche sur des taux de chômage vraiment importants 3 ans après la sortie du système éducatif. C'est-à-dire on a eu vraiment le temps de constater ce qui se joue sur le marché du travail. Eh bien, donc, ces constats sont faits d'une manière très régulière par le CEREC au travers de ses enquêtes génération. Et pour autant, ce seul bac, donc GEA, il y en a une centaine, qui représente quand même 20% des flux, qui accueillent essentiellement d'ailleurs des filles, donc est toujours là, et donc joue un rôle très important en termes de régulation des flux de passage par l'enseignement professionnel. Ça montre bien que l'expertise est relativement peu entendue sur ce registre.
Ah mais c'est le cas de le dire, on marche sur la tête. Il y a des filières dans lesquelles les élèves sont en gros parqués pour attendre d'être au chômage. C'est ce qu'on entend, Nathalie Mons, un véritable scandale. Alors pourquoi en est-on toujours là alors que on le sait depuis longtemps?
Bah parce que en fait, lorsqu'on regarde ces publics, ils sont quand même très spécifiques, et c'est peut-être aussi une partie de l'explication. Comme le disait Éric Verdier, ce sont des filles, mais pas seulement. Ce sont dans certaines de ces filières qui ont des graves difficultés d'insertion à 70% des enfants d'ouvriers et d'employés. Donc vous voyez que c'est énorme, et ce sont aussi beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration. Donc c'est vraiment un public très fragile, et vous savez que la France s'occupe beaucoup de ses élites, et malheureusement un petit peu moins des élèves qui sont les plus fragiles. Donc on voit bien que d'un côté il y a eu clairement sur les 15 dernières années, et le mandat actuel ne fait pas exception, je dirais une forme d'indifférence, ou en tout cas les solutions qui sont mises en place ne sont pas les bonnes.
Comment l'analysez-vous ? Indifférence, c'est quelque chose que les politiques ou les responsables ne veulent pas faire, ou on ne sait pas le faire. La culture scolaire française n'a pas le savoir-faire, comme par exemple pour traiter la difficulté scolaire assez tôt. On voit que c'est compliqué, le redoublement ne fonctionne pas, mais enfin le passage dans une classe supérieure non plus. Et là, quand on retrouve des élèves en difficulté au lycée, eh bien, il n'y a pas toujours, même assez peu, de bonnes solutions.
Quand on regarde en fait cette situation de filières qui depuis des années n'ont pas d'insertion, les facteurs explicatifs sont multiples, hein, et c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde par exemple comment ces filières sont créées en termes de programme, on se rend compte que c'est extrêmement long, que ce sont des commissions qui associent les branches professionnelles et l'éducation nationale.
Ça, a priori, avec... ça paraît pertinent.
Ben, c'est pas toujours pertinent parce que chacun a aussi ses intérêts. Les branches professionnelles en général dans ces commissions ne sont pas représentées par des chefs d'entreprise ou des salariés en activité. Donc finalement, on a des gens qui sont très loin de la réalité de l'entreprise qui vont prendre des décisions. C'est pour ça que le CNESCO a réellement demandé dans ses préconisations à ce que les diplômes, la rénovation des diplômes soient éclairés par des études solides sur l'emploi menées par des organismes indépendants. Parce que l'éducation nationale, elle a ouvert des filières, elle a mis des profs, elle a aussi intérêt à continuer à tourner sur ces filières qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc chacun a finalement aussi intérêt ses branches professionnelles qui revendiquent aussi des diplômes parce qu'elles veulent une visibilité, par exemple. Donc on a du coup 200 CAP, plus de 100 bacs pro, donc une offre tout à fait pléthorique et illisible pour les jeunes. 13th of June 2010 Whiskey at noon and an unfamiliar man lying in your bed. Or was it my turning head? Thinking it was you instead. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time, and then you let the light shine. Golden and divine. But where did you go?
Écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons d'enseignement professionnel et pas seulement du bac pro, même si voilà, les élèves de terminale de l'enseignement professionnel et les autres seront bientôt en train de passer leur bac. Alors pour cet enseignement professionnel largement perfectible, nous l'avons entendu en France, il y a des idées, des préconisations, comme par exemple celle du CNESCO que vous dirigez, Nathalie Mons. On vous a entendu sur les problèmes d'adéquation des formations avec le marché du travail. Éric Verdier, c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, si on veut parler de manière efficace, si on veut donner des solutions, de quoi peut-on s'inspirer à l'étranger, mais aussi en France?
Alors, d'une part, si on reste sur la France, il est intéressant de regarder les filières, pourquoi certaines filières fonctionnent bien. En général, et d'ailleurs Nathalie Mons l'a esquissé tout à l'heure, c'est lié à la qualité de l'engagement des employeurs dans la construction des diplômes eux-mêmes, dans ce que les élèves doivent apprendre. C'est lié aussi à la qualité de la régulation des flux. Parce que, effectivement, si on laisse rentrer dans des filières trop de jeunes par rapport aux débouchés potentiels, on a de forts risques donc de les amener dans des voies sans issue. Et puis, c'est lié aussi à la qualité de l'alternance qu'on va mettre en place dans le cours des études entre l'école et l'entreprise. Puisque vous le savez, en France, même pour ceux qui sont dans les lycées, eh bien, le passage en entreprise est obligatoire. Et donc, c'est très intéressant de voir que localement, on va identifier des différences pour une même, un même diplôme, des différences très sensibles selon la qualité de ces relations entre les milieux professionnels et les établissements scolaires. Et puis, il y a évidemment l'apprentissage, qui est une autre modalité, qui, elle, je dirais, par définition, et porteuse d'un engagement assez fort des entreprises. Voilà pour ce qui est de la France.
Et alors pour ce qui est de l'étranger, et si vous pouvez nous donner des exemples précis de filières.
Bon, évidemment, c'est d'une constante actualité. On nous parle très régulièrement de l'Allemagne. On pourrait étendre d'ailleurs le propos à l'Autriche, à la Suisse, au Danemark, c'est-à-dire autant de pays qui ont développé leur enseignement professionnel par la voie de l'apprentissage. Et effectivement, les régulations se passent mieux et les taux de chômage sont nettement plus faibles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les exigences qui sont portées vers les employeurs en la matière sont très fortes. C'est-à-dire que la qualité de ce que les jeunes doivent apprendre dans l'entreprise est très fortement réglementée dans ces pays. Et je ne suis pas sûr que lorsque l'on évoque les succès allemands ou suisses en matière d'apprentissage, les interlocuteurs prennent pleinement conscience des engagements que souscrivent les employeurs allemands ou les employeurs helvétiques.
Donc il y a un engagement du monde économique qu'on n'a pas forcément avec les acteurs français. Nathalie Mons, il y a un autre modèle, le modèle suédois.
Oui, donc en Suède, l'objectif est finalement de mener de façon beaucoup moins différenciée qu'en France les élèves à l'équivalent d'un bac. Donc on n'a pas cette séparation aussi nette qu'on peut avoir en France entre les filières générales, les filières technologiques, les filières professionnelles. On est finalement dans un lycée unique, comme on parle du collège unique, et les élèves vont construire des parcours à partir d'options. Alors, sans aller jusque-là, évidemment, le Conseil a préconisé qu'on puisse aller au moins vers des lycées polyvalents d'un nouveau type. Parce qu'en France, on a aujourd'hui des lycées professionnels qui sont extrêmement ghettoisés, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très marqués par des populations, alors soit filles, soit garçons, selon les filières, hein, puisqu'on a très peu de mixité dans le professionnel, et puis qui sont marqués aussi socialement. Donc, il faudrait pouvoir mettre dans des lycées polyvalents d'un nouveau type l'ensemble des élèves ensemble. Alors, ça a déjà été tenté, mais souvent, on juxtapose les élèves.
Je voudrais savoir si ça fonctionne, parce que en France, le collège unique fait encore débat 40 ans, 41 ans après sa mise en place. Alors, le lycée unique, ça semble quelque peu ambitieux. Est-ce que vous avez des exemples de lycées polyvalents d'un nouveau genre où les élèves arriveraient à se mélanger? Des exemples en France?
Alors, en France, ça n'existe pas, puisque de toute façon, on a quand même des filières. Enfin, tout cela est organisé selon, finalement, une définition nationale. Donc là, ce qui est visé de notre côté, c'est d'avoir des lieux où on mélange tous les types de lycéens, pour que les lycéens professionnels puissent aussi rencontrer des lycéens généraux. Ces jeunesses sont en train finalement de s'ignorer aujourd'hui. Elles doivent pouvoir, dans ces lycées polyvalents d'un nouveau type, à la fois partager des espaces communs, par exemple des CDI, mais aussi partager des cours communs. Alors quand je dis ça, tout le monde, oh, mais comment est-ce que c'est possible en France? On ne peut pas imaginer de partager des cours.
Voilà. Vous faites votre relance vous-même.
On peut tout à fait partager des cours, par exemple en sport. On peut tout à fait partager des cours en langue, en éducation à la citoyenneté, autour de projets professionnels.
On comprend l'objectif social, il faut que la jeunesse soit moins divisée, c'est presque politique, mais pourquoi ça marcherait mieux, Nathalie Mons?
Pour la bonne et simple raison que, comme le Conseil l'a déjà montré dans ses autres travaux sur la mixité, lorsqu'il n'y a pas de mixité sociale, il y a vraiment un frein aux apprentissages. Et il y a aussi un frein tout à fait notable aux capacités des élèves, par la suite, à vivre ensemble. Donc, la ségrégation sociale dans les établissements développe de façon évidente et manifeste. L'ensemble des recherches le montre. Des phénomènes d'incivilité, des phénomènes d'intolérance. Donc il faut réellement aujourd'hui avoir une jeunesse qui puisse communiquer dans des lieux communs et à travers au moins une partie d'activités pédagogiques communes.
Éric Verdier, est-ce que cela a du sens aussi pour l'insertion professionnelle ?
Si je me permettais, je reviendrai un tout petit peu en amont. Il y a quand même des lycées en France généraux qui ont des sections d'enseignement professionnel. Ce que l'on constate, c'est que les résultats sont pas extraordinairement différents des lycées ou purement professionnels. Et ça s'explique par le fait que on retrouve un certain nombre de divisions qui traversent aussi le corps professoral. Vous retrouvez dans ces établissements des salles de profs distinctes selon que l'on enseigne donc en milieu professionnel ou selon que l'on enseigne donc dans la filière générale. Plus que cela, dans les lycées professionnels eux-mêmes, vous avez souvent des écarts très marqués entre les profs des matières générales et les profs des matières professionnelles. Donc je crois qu'il y a aussi une réflexion à mener sur la manière dont on construit les corps professionnels qui enseignent dans les lycées et dans les différentes structures d'enseignement. Ça, il me semble que c'est un point important parce que sinon, on risque de retrouver donc des écarts, des divisions que l'on connaît déjà.
Et concernant cette question du mélange sociologique comme facteur d'intégration sociale et professionnelle?
Vous voulez dire d'avoir des élèves qui ont des origines
oui, de mixer les publics au sein d'un même établissement.
Bah, potentiellement, ça peut être intéressant parce que cela pourrait ouvrir donc des passerelles, entre les différents dispositifs. Encore faut-il que ces passerelles soient étayées, soient véritablement portées par les institutions. Or, malheureusement, jusqu'à présent, la France a fait des chemins inverses. Il y avait plus de passerelles allant de l'enseignement professionnel vers l'enseignement technologique il y a 25 ans qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, les structures sont plus cloisonnées qu'elles ne l'étaient au début des années 90.
Et ça, ça paraît extrêmement surprenant dans un monde où on nous dit que tous les futurs salariés, s'ils sont salariés, les futurs travailleurs, vont être amenés à changer de métier au sein de leur carrière professionnelle. Nathalie Mons, et par ailleurs, je voudrais, puisqu'on parlait des enseignants, indiquer que ce rapport s'arrête sur, par exemple, le manque d'enseignants dans les filières professionnelles, manque assez conséquent.
Oui, on parle très peu dans les médias de cette pénurie de professeurs qui interviennent dans les enseignements professionnels. Quand on parle de pénurie d'enseignants, on parle des profs de maths, des profs d'anglais dans l'enseignement général. Et là encore, il y a vraiment une cécité par rapport au fonctionnement de l'enseignement professionnel. Or, depuis la masterisation, le nombre de candidats a été divisé par deux au concours de professeurs pour les enseignements professionnels. Donc là, il y a vraiment à pouvoir adapter l'organisation du master pour faire rentrer des professionnels qui sont déjà aguerris. Et donc là, la préconisation...
Du master, c'est-à-dire toute l'organisation du concours pour devenir enseignant.
Voilà, aujourd'hui, les étudiants doivent avoir un master pour pouvoir prétendre passer le concours de l'éducation nationale. Or, l'enseignement professionnel, évidemment, a recours à de nombreux professionnels qui n'ont pas tous un master. Par exemple, dans un CAP maçonnerie, tous les professionnels qui vont intervenir autour de la maçonnerie n'ont pas tous, évidemment, derrière eux, un master. Or, ces compétences sont extrêmement importantes pour ces formations. Donc, la préconisation du CNESCO est de pouvoir, en fait, intégrer ces professionnels dans l'éducation nationale, dès lors qu'ils ont fait la démonstration d'une expérience professionnelle tout à fait conséquente, et de pouvoir après, par la suite, dès lors qu'ils sont dans l'éducation nationale, leur fournir une formation continue qui leur permettra d'avoir un master. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir des profs au rabais dans l'enseignement professionnel.
En tout cas, ce n'est pas ce que préconise évidemment votre rapport. Et à propos de niveau de formation et de niveau tout court, il y a un point sur lequel je me suis arrêtée, c'est celui de... des prérequis des élèves, de l'enseignement des matières, des disciplines fondamentales, des élèves, on sait pourquoi on est orienté en filière professionnelle en France, on ne va pas s'étendre sur la question, c'est souvent une orientation subie, pas toujours, mais encore beaucoup, c'est souvent parce que les résultats scolaires ne permettent pas d'aller en filière générale, et vous dites, ces élèves, il faut continuer à les faire travailler pour qu'ils aient un haut niveau de formation dans toutes les disciplines. Pourquoi, Nathalie Mons?
On se rend compte qu'à l'avenir, les jeunes vont certainement exercer plusieurs métiers. Donc on ne peut plus avoir une vision étroite, strictement adéquationniste, c'est-à-dire qu'on préparerait les jeunes à certaines compétences liées très étroitement à certains métiers. On doit aujourd'hui leur donner finalement une formation en termes de fondamentaux qui soit solide. Alors, évidemment, toujours un pan professionnel, mais une formation de base qui soit solide de façon à ce qu'ils puissent demain à aller vers des métiers différents. Du coup, une des recommandations aussi, c'est de faire attention au collège. C'est-à-dire que ces élèves doivent aussi arriver avec le maximum de fondamentaux acquis au collège. Et c'est pour ça, par exemple, que le conseil demande que les classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, qui sont instituées par la réforme du collège, soient suspendues. Puisqu'en fait, ces classes ne réunissent que des élèves en grande difficulté, même s'ils suivent les programmes des troisièmes normales, on voit bien que là est concentrée la difficulté scolaire et on retombe encore sur tous les problèmes liés à la ségrégation scolaire, c'est-à-dire que les élèves finissent par être des handicaps entre eux, on n'a pas une tête de classe qui permet d'avancer. Donc ces classes sont réellement à supprimer.
Vous diront aussi que ces élèves plus faibles en ont marre de l'enseignement traditionnel, qu'il est très difficile de les garder dans des classes. Certains peuvent être plus turbulents ou avoir des attitudes de contestation parce qu'ils sont à la traîne, parce que c'est compliqué pour eux de suivre, mais pour l'enseignant, évidemment, c'est compliqué aussi.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le conseil ne nie pas qu'il y a de la difficulté scolaire dans le collège unique. C'est bien une des difficultés. Et du coup, nous proposons que ces élèves qui sont en grande difficulté scolaire ne soient pas enfermés, ghettoisés dans une classe. D'ailleurs, maintenant, ces classes sont très souvent posées même dans les lycées professionnels, ce qui pose d'énormes problèmes de vie scolaire, de confrontation de ces jeunes qui n'ont finalement que 14 ou 15 ans, à des lycéens avec des comportements qui peuvent être, dans certains cas, violents. Donc, la proposition est de ne pas constituer une classe ségrégée, mais de, au contraire, les répartir sur différentes classes en ayant un dispositif, évidemment, pédagogique particulier, dispositif particulier, innovant et qui servirait aussi aux autres élèves.
Voilà, le CNESCO a des propositions pour l'école et pour le lycée professionnel. On l'a entendu, Nathalie Mons et Eric Verdier. Eh bien, ces propositions, on les mettra en lien sur le site de France Culture, à la page de Rue des Écoles. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Saviez-vous qu'aux dernières élections départementales, plus d'une centaine d'enseignants se sont présentés sous les couleurs du Front National ? Dans ce milieu, qui a été un bastion de la gauche, cette percée n'est pas passée inaperçue. Je reprends les propos de Libby Cousteau, grand reporter à l'Express, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors, dans Rue des Écoles, nous essayons de comprendre comment se joue le débat éducatif, comment il se joue, eh bien, sur tous les bords de l'échiquier politique et aussi à l'extrême droite. Alain Avello, vous représentez le collectif Racine, c'est le think tank éducation du Front National. Alors vous refusez le terme d'extrême droite.
Absolument, absolument. Je vous dirai ce que je ne suis évidemment pas d'extrême droite et que je ne suis pas même de droite. Le positionnement du mouvement qui est le nôtre est clair. Notre présidente Marine Le Pen l'a affirmé à de multiples reprises. Le Front National n'est ni de droite ni de gauche. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'en suis une sorte d'illustration vivante parce que, avec d'autres, ma provenance politique, c'est le chevènementisme. J'étais effectivement dans la mouvance chevènementiste en 2002 particulièrement. Je viens de la gauche patriote. J'ai simplement rejoint le Front National de Marine Le Pen, comme beaucoup d'enseignants du reste, en 2011.
Vous êtes enseignant. Dernièrement, nous avons invité un enseignant, Grégory Chamba, qui a écrit un livre. Dans le titre, il y a cette expression « les réacs publicains ». C'est ça, c'est républicain et attaché à certaines valeurs un peu traditionnelles. C'est ce que vous représentez ?
Alors d'abord, je lui sais gré à Monsieur Chamba, avec qui j'ai eu quelques contacts distants par médias interposés justement. Il écrit beaucoup sur nous. Il est manifestement très très préoccupé parce que nous sommes et notre montée. Je lui sais gré donc de nous reconnaître comme étant des républicains, car effectivement républicains nous le sommes et indéfectiblement. Quant à l'autre aspect de sa formule, à savoir si nous serions réac, donc réactionnaires, je vois bien là effectivement une vieille accusation que l'extrême gauche utilisait il y a déjà longtemps. Non, nous ne sommes pas réactionnaires. Nous ne sommes pas réactionnaires pour la bonne raison que si effectivement nous sommes très conscients, comme d'ailleurs une grande partie de l'opinion, de ce qui dysfonctionne gravement dans le système scolaire aujourd'hui, nous sommes aussi conscients que peut-être et à bien des niveaux en réalité, l'école fonctionnait peut-être mieux auparavant. Nous savons par ailleurs que l'histoire ne repasse pas les plats. Nous travaillons en perspective de l'avenir. Vous le disiez dans votre introduction, je suis avec les équipes d'experts que nous avons formés en charge de réfléchir sur le projet éducation de Marine Le Pen, que Marine Le Pen portera lors de la présidentielle. Eh bien, nous sommes aussi novateurs.
Alors, quand même, vous l'avez dit, l'école, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux? Une école plus patriote, c'est ça que vous défendez? Jean-François Copé a dit que l'école devait redonner l'amour de la France. Il est pour un lever obligatoire du drapeau dans les écoles de France. C'est par exemple une idée que vous partagez, Alain Avello?
Oui, alors là, ce sont des symboles. Que l'école, d'ailleurs, on parle d'éducation nationale, n'est-ce pas, que l'école doivent être effectivement aux prises avec les réalités de la nation, avec l'histoire qui est celle de la France. C'est quelque chose à quoi nous sommes effectivement totalement attachés. Particulièrement, nous dénonçons, plus que même nous déplorons, nous dénonçons vraiment le fait que des pans entiers de l'histoire de France soient passés sous silence, notamment à la défaveur de cette réécriture des programmes d'histoire qui accompagnent la réforme du collège.
C'est très discuté, hein. On en a déjà parlé dans l'émission, je renvoie à des anciens numéros de rue des écoles. C'est comme ça qu'on combat l'échec scolaire, avec des symboles et puis un programme d'histoire plus attaché au roman national, Alain Avello?
Non, ma réponse était partielle. Ce que je m'apprêtais à vous dire et que je vais développer maintenant, c'est que, par ailleurs, nous considérons, et ce n'est pas une opinion, c'est une analyse fondée sur une analyse concrète, donc des réalités, que peut-être paradoxalement, l'école est devenue très inégalitaire. Elle l'est sans doute beaucoup plus.
Ça, on peut dire que c'est le constat partagé par toute la classe politique et tous les observateurs.
Voilà.
Je suis d'accord avec vous.
On a parlé durant votre émission du collège unique. J'ai entendu avec une sorte de frémissement intérieur parler d'un lycée unique. Bon, le collège unique est une catastrophe. Le collège unique, c'est exactement, donc ça remonte, c'est la loi Habit de 1975, comme on le sait, qui en porte création. Eh bien, le collège unique a en fait provoqué une sorte de nivellement par le bas. Si j'entre un peu dans le détail, si vous permettez, c'est le contresens égalitariste qui est à notre sens le contraire de l'égalité républicaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cru qu'on allait démocratiser le collège, eh bien, en le massifiant et en revoyant à la baisse le niveau d'exigence. Et lorsqu'on revoit à la baisse le niveau d'exigence, eh bien, on empêche les élèves qui ont tout à attendre de l'école parce que justement ils sont issus de milieux sociaux défavorisés, on les empêche de pouvoir progresser socialement.
Baisse du niveau d'exigence, un constat qui est aussi discuté. Mais que proposez-vous bien pour relever le niveau d'exigence et surtout le niveau des élèves, Alain Avello, si c'est bien votre préoccupation au collectif Racine?
Ah bien, écoutez, ça l'est incontestablement, parce que à l'école se joue le destin individuel des enfants, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, enfin, qui est aussi le destin collectif de la nation. Bon. Alors effectivement, ce que nous préconisons et ce que nous devrions inscrire dans le projet présidentiel, c'est un certain nombre de choses. Bon, particulièrement pour rebondir sur la thématique dominante de votre émission, je ne récuse pas aussi vite ce qui est effectivement un leitmotiv des hommes politiques, de toute la classe politique quasiment, du moins quand elle se trouve dans l'opposition, le principe d'une nécessaire revalorisation de la voie professionnelle. Évidemment qu'il faudra revaloriser la voie professionnelle. Il ne faut pas que la voie professionnelle soit une voie qui soit perçue, qui soit vécue comme une voie de relégation. Donc, pour cela, nous avons des idées extrêmement concrètes. Ça rejoint les choses qui ont été dites tout à l'heure. Nous considérons en particulier qu'il faudrait sans doute qu'il y ait la création de véritables grandes écoles des métiers auxquelles prépareraient des classes préparatoires qui seraient situées dans les lycées les plus prestigieux du centre-ville. Parce que la dévalorisation dont tout le monde fait le constat, elle tient essentiellement à un déficit d'image. Bon, il faut donc
là encore, les symboles sont importants.
Là encore, les symboles sont importants, bien entendu.
Et concernant, parce qu'on a hélas pas beaucoup de temps, concernant le budget de l'éducation nationale, il faut le préserver à la même hauteur, payer mieux les enseignants, recruter encore davantage.
Eh bien, nous réformerons le budget de l'éducation nationale. Nous réformerons l'éducation nationale dans un esprit de sérieux budgétaire, bien entendu.
Ce qui signifie.
C'est-à-dire que on peut envisager sans doute là l'aspect calcul, projection, chiffré est en cours d'élaboration, mais on peut envisager de réformer quasiment, selon nous, à budget constant, hein, bien entendu.
Mais les communes Front National n'ont pas toujours préservé le budget alloué aux écoles. Il y a un budget municipal, des politiques assez contrastées. Les enseignants en parlent, s'expriment aussi sur les réseaux sociaux, sur des blogs et se plaignent d'une reprise en main politique, mais aussi budgétaire.
Alors, de quoi parle-t-on en ce qui concerne les communes? Quelles sont, des mairies Front National, la source de réduction des dépenses en faveur des écoles?
Eh bien, en ce qui concerne Béziers, par exemple.
Béziers n'est pas, je crois, une commune Front National. Monsieur Ménard, je crois, son maire n'est pas Front National.
Et en ce qui concerne Mantes aussi, la reprise en main des écoles qui est dénoncée par des enseignants. Moi, je ne suis pas allé enquêter sur place, donc je vous rapporte le témoignage des enseignants de ces villes.
Les enseignants qui enseignent dans ces écoles, à Mantes y compris, sont des fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc je ne vois pas en quoi la mairie procéderait à une reprise en main de ces écoles.
Mais ça peut être sur les budgets alloués aux sorties, aux activités culturelles qui se font aussi dans les écoles.
Oui, bah écoutez, je ne connais pas le détail de ce que font ces mairies. Mais en tout cas, vous ne m'avez pas laissé terminer sur la question de ce que nous envisageons comme piste pour retrouver effectivement une école qui soit plus égalitaire. Alors, l'aspect formation professionnelle, ce n'est qu'un aspect. Nous voulons, par ailleurs, et il faut bien nous comprendre, nous avons beaucoup cité, durant l'histoire déjà un peu ancienne, deux ans, du collectif Racine, une formule qui est la sélection des meilleurs par la promotion de tous. C'est une formule de Paul Langevin. C'est exactement pour nous une formule qui exprime de façon parfaitement pure, parfaitement claire, ce que nous considérons comme l'égalité républicaine. Voilà. Bon. Alors effectivement, il ne faut laisser aucun enfant de côté. Il faut que l'école donne des chances égales à tous. Pour cela, elle doit privilégier, sans revoir au rabais, à la baisse, les exigences, encore une fois, ou sans différer les moments où les savoirs devront être acquis, il faut qu'elle dispense à tous les enfants de France un véritable enseignement qui leur permette d'arriver à la sortie de l'école primaire à maîtriser absolument tous les savoirs fondamentaux, par exemple.
Mais là, ce sont encore des choses qui sont partagées par à peu près tous les acteurs des propos qui sont partagés par à peu près tous les acteurs du champ politique. Alors, dernière question, on a peu de temps, rapidement. On parlait en début d'émission des écoles libres, des écoles hors contrat, par exemple des écoles catholiques, mais on peut plus largement parler de l'enseignement privé. On sait qu'au sein du Front National, eh bien, il y a des courants très religieux, catholiques. Vous êtes plutôt républicain. Comment vous vous situez par rapport à eux?
Oh bah écoutez, nous sommes pour, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes pour une situation de statu quo finalement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas de rouvrir la guerre scolaire, aussi républicain qu'on puisse être. Au collectif Racine, nous rassemblons des enseignants qui sont à la fois attachés à l'école publique plutôt, d'autres qui sont très attachés à l'école privée, voire à l'école privée hors contrat, hein, et à l'école à la maison. Il m'arrive d'en rencontrer assez souvent. Nous sommes pour une situation de statu quo. Nous considérons que les spécificités de l'enseignement privé, hors contrat comme sous contrat, doivent être respectées. Cela étant, je voudrais terminer sur ce point en vous disant que ce que j'entends beaucoup, puisque je parle souvent avec eux, de la part de nos adhérents, de la part des différentes personnes attachées à l'enseignement privé, hors contrat notamment, et à l'école à la maison y compris, eh bien, ce que j'entends souvent de leur bouche, c'est que si l'école publique fonctionnait mieux, si elle remplissait davantage ses fonctions, eh bien, ils seraient bien souvent très heureux de lui confier leurs enfants.
Réponse en un mot. Vous voyez Marine Le Pen accéder au pouvoir. Dans ce cas-là, vous voyez conseiller à l'éducation, ministre de l'éducation, un ministre de l'éducation Front National, ça s'imagine en France?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, on travaille. Tout dépendra, on verra, de ce que décideront Marine Le Pen et le Premier ministre qu'elle aura nommé alors.
La semaine prochaine, nous parlerons des lycées français à l'étranger. Mais pour l'heure, je vous laisse avec Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.